bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington. Dans une mise en demeure, la RDC a accusé Apple d'utiliser des minerais provenant de mines où les droits humains sont violés. Selon les avocats mandatés par l'État congolais, ces minerais seraient transportés vers le Rwanda. Selon The Enough Project, ces sites de minerais sont souvent contrôlés par des groupes armés qui forcent des civils à travailler. En 2022, Global Witness a accusé le programme de traçabilité de contribuer en RDC au blanchiment de minerais liés à des conflits et au travail des enfants. Apple dit n'avoir trouvé aucune base raisonnable pour conclure que sa chaîne d'approvisionnement a bénéficié à des groupes armés. Alors comment assainir le secteur de l'extraction des minerais en Afrique? Quelles mesures prendre pour assurer une gestion responsable de l'industrie extractive? Quelle est la responsabilité des États et des entreprises dans l'exploitation minière liée à des conflits? Que faire pour que les ressources naturelles profitent aux pays qui les possèdent et à leur population? Voilà, ce sont les nombreuses questions que nous sommes posées déjà sur les réseaux sociaux avec votre participation. Nous avons en ligne une invitée, c'est Marie Desanges Loumont. Elle est spécialiste en développement organisationnel. Elle est également active au sein de la société civile à Goma dans le domaine de la juste répartition des ressources naturelles. Marie Desanges, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie Bache.
Alors Marie Desanges, depuis plusieurs années, on sait que Apple exige que les fonderies et raffineries traitant les minéraux utilisés dans ses produits subissent un audit. Selon la SEC, la Commission de sécurité et d'échange, ces quelques 10 dernières années, la société a retiré plus de 160 fonderies et raffineries de sa chaîne d'approvisionnement. Alors comprenant notamment le tantal, l'étain, le tungstène et l'or. Alors il semble que tout cela ne suffirait peut-être pas. Dans un premier temps, on va écouter Marie-Louise, qui est congolaise. Elle est entrepreneur et ex-ministre provinciale de la province du Lualaba.
L'extraction minière, aujourd'hui en Afrique, crée beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs mesures à prendre qui ont déjà été prises depuis longtemps. Le monde minier, bien le secteur minier, a déjà été assaini par rapport aux parties prenantes. Mais lorsque nous retrouvons qu'il y a des femmes enceintes, des femmes vulnérables, des enfants, qui est aussi la présence des groupes armés, c'est-à-dire nous rentrons à la question d'il y a 20 ans par rapport à cette exploitation. Ça c'est un des deux. Le paradoxe entre les richesses ou bien les ressources naturelles et la précarité qui s'observe au sein de la population nous amène à crier très fort et à demander à ce que ce secteur-là soit encore assaini. Les parties prenantes sont reconnues. Et maintenant, ce sont les États qui doivent prendre les responsabilités à ce qu'on assainisse totalement, qu'on contrôle et définisse tous les termes qu'il faut dans les contrats et que l'État congolais prévoit les contrats avec les investisseurs via les partenaires. Et les entreprises aujourd'hui doivent respecter chaque pays. C'est de la souveraineté de chaque pays de dénoncer et de faire de telle sorte que les populations puissent profiter, vivre et avoir accès aux soins et aux services de base dans leur pays. Si aujourd'hui les investisseurs étrangers viennent et imposent leur volonté, cette pauvreté continuera à faire souffrir la population. C'était Mme Marie-Louise Moussenga à partir de la province minière du Lualaba.
Alors Marie Desanges Loumont, pouvez-vous nous dresser un plan de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo? Ces groupes armés contrôlent-ils vraiment des sites miniers? Quelles sont les conditions de travail dans ces mines?
Oui, Nathalie, en effet, actuellement, si vous regardez la situation de l'est de la RDC, je vais particulièrement vous parler des quelques données récentes qu'on a eues en recensant un peu les différents groupes armés dans l'est de la RDC. On a retrouvé 136 groupes armés, dont 5 étrangers au sud Kivu, 64 groupes armés, dont 7 étrangers au nord Kivu, 20 groupes armés, dont 2 étrangers en Ituri. Et actuellement, il y a une hausse des prix des denrées alimentaires des bases qui inquiète suffisamment la population. Et particulièrement, la ville de Goma, qui est isolée des 3 axes principaux qui lui fournissent la nourriture, particulièrement le Rutshuru, le Masisi et Minova. et des violences isolées grandissantes dans certaines villes, dont celle de Goma dont je viens de parler, et cela lié à la circulation incontrôlée des armes à feu. En effet, autour des sites miniers, la réalité est toujours là. Les groupes armés demeurent contrôlant beaucoup des sites miniers. C'est vrai qu'il y a des sites qui ne sont pas directement contrôlés par les groupes armés parce qu'à un certain moment, il y a eu une certaine pression par rapport à cette question aux exigeants, aux utilisateurs finaux des ressources minières, dont les multinationales, d'utiliser des minerais qui ne sont pas entachés par le sang. Et ce qui fait qu'à un certain moment, les groupes armés ont changé des stratégies en travaillant indirectement avec leurs alliés. Mais ce qui est là est que malheureusement, plusieurs sites miniers continuent à être contrôlés par les groupes armés. Le cas du Nord Kivu particulièrement actuellement est encore très criant par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se passe avec les M23. Donc voilà ce que je peux dire au sujet de cette question.
Merci beaucoup à Marie Desanges pour toutes ces précisions. Alors on va écouter maintenant un auditeur de VOA Afrique, c'est Christian Outchama.
Bonjour la VOA, bonjour toute l'Afrique. En ce qui concerne la question de la RDC concernant les minéraux provenant des endroits là où est contrôlé par les groupes armés, ce que je voulais dire, le problème ou bien la solution, c'est d'abord vers la source. Parce que le gouvernement doit prendre d'abord ses responsabilités, d'abord de chercher les moyens de venir avec ces groupes armés-là, et aussi de chercher les moyens, comment faire pour qu'ils puissent bloquer d'abord la provenance des munitions par lesquelles les groupes armés sont utilisés pour aller contrôler avec ça tous ces secteurs-là. En plus de ça aussi, chercher les moyens de sensibiliser les jeunes afin de voir comment on peut faire que nous, tous ces migrants puissent aller dans cet endroit afin qu'on puisse localiser ça facilement. Et aussi, de trouver les moyens que les jeunes puissent avoir aussi de l'emploi pour qu'ils ne puissent pas s'ingérer dans des problèmes de groupes armés. Parce que quand quelqu'un entre dans les groupes armés, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Il voit les moyens faciles par lesquels il peut aller après dans les groupes armés afin d'aller aussi chercher le moyen d'exploiter des minéraux illégaux pour qu'ils puissent aller dans d'autres endroits. Je suis M. Christian Outchama, à République démocratique du Congo, dans la ville de Bunia, en province de Litour. Merci.
Alors, nous avons également la réflexion de Jean-Louis qui est à Kigali, au Rwanda. Alors, il a écrit sur le Facebook de VOA Afrique, et je le cite, « Contrairement à une certaine pensée, le Rwanda dispose aussi de minerais, notamment du coltan, minerai trouvé en RDC, le plus grand producteur avec des gisements importants dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Le Rwanda, dit-il, est également un important producteur de coltan avec des gisements dans les districts de Rulindo, Gakenga, et Mwanga. Il parle du Burundi, du Nigeria, de l'Australie et du Brésil, bien sûr. Et il dit qu'il est important de s'assurer que les produits contenant du coltan sont achetés de manière éthique et responsable. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Marie Desanges Loumo, les entreprises minières doivent suivre un code de conduite pour la traçabilité de ces minerais. Est-ce qu'elles mettent vraiment les moyens nécessaires dans tous ces contrôles, selon vous?
Alors ça, c'est un des grands défis, Nathalie, hein, par rapport à toute cette question d'exploitation minière à l'est de la RDC. Parce que sur le plan d'instruments juridiques, sur le plan du cadre, des stratégies et tout, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais le grand souci, c'est maintenant la pratique. Beaucoup d'entreprises ne passe pas à l'action par rapport au respect même de ce qu'on appelle le principe de diligence raisonnable. C'est un principe, c'est une obligation qui est imposée à toutes les entreprises, mais malheureusement, ils trouvent toujours un moyen pour contourner ça. Et malheureusement aussi, toute la responsabilité ne peut pas leur être incombrée parce que vous allez réaliser qu'il y a aussi certaines faiblesses certains services techniques de l'État qui sont censés contrôler le respect de ces principes de diligence par les entreprises et qui n'est pas fait comme il le faut.
Alors, on reste en République démocratique du Congo, hein, notamment à Goma, où vous vous trouvez, pour écouter Hortense Kavuo-Maliro, qui est militante sociale.
On découvre un gisement quelque part. Il faudrait que cette population qui habite à ces alentours puisse comprendre que c'est pour le bien fondé de l'économie nationale qu'elles doivent être délocalisées de l'endroit où il y a ces grands gisements. Et je pense qu'il faut vraiment les sensibiliser d'abord. Il faut sensibiliser cette population. Et en cas de l'indemnisation, il faudrait que l'État arrive à les indemniser comme il se doit, parce que nous avons vu comment est-ce qu'on délocalisait les habitants et en les jetant très 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 loin de la ville et sans bien les indemniser. Et c'est ce qui pose aussi des révoltes. Et par rapport au pays maintenant, il faudrait arriver à ce que cette richesse puisse être à l'avantage de la population. Vous allez voir, même il y a des endroits où c'est riche à minerais, mais il n'y a même pas d'école, il n'y a même pas de route, il n'y a même pas d'hôpitaux. Donc il faudrait que quand il y a des opportunités comme ça, qu'on impose à ceux qui vont même exploiter, que ça puisse impacter sur le développement de ces milliers. Parce que quand on ne trouve pas l'école, on ne trouve pas les hôpitaux, on ne trouve pas la route, on ne trouve rien, alors à quoi bon? Qu'est-ce que ces gisements, qu'est-ce que cette richesse naturelle apporterait au développement de ces milliers-là?
Voilà, c'était Hortense Kavuo-Maliro, militante des droits humains et des questions sociales. Marie Desanges Loumo, dans vos activités ou plaidoyers, quelles sont les actions que vous menez, notamment pour un partage équitable des ressources naturelles?
Alors, une des grandes activités que nous menons dans le cadre de ce partage équitable des ressources naturelles, c'est principalement d'accompagner les structures de la société civile en les capacitant en termes sur le plan organisationnel afin qu'elles soient plus efficaces et qu'elles atteignent l'impact en termes d'influence et des pressions sur les autorités. Des pressions aussi sur la prise des mesures appropriées pour contourner tous les défis auxquels on est en train de faire face concernant la question d'exploitation minière. Mais en dehors de ça, à côté de ça, nous travaillons aussi sur le réseautage. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais nous mettons dans un cadre qu'on appelle Goma Connect, où nous organisons un event annuel qu'on appelle Goma Mining Briefings, où nous appelons tous les acteurs à interagir. Nous les mettons face à l'état actuel du secteur et face à leurs responsabilités pour un échange, mais également pour une prise de conscience par rapport à tout ce que entraînent leurs attitudes, surtout au sein de la population qui vit autour des sites miniers. Donc, en bref, ce sont les grandes actions que nous menons.
Alors, on va à présent en République centrafricaine pour écouter la femme politique Antoinette Montaigne, qui est également experte en droit des enfants.
D'abord, enrayer les multiples conflits qui prolifèrent dans les régions et portent atteinte aux droits humains. Et deuxièmement, réduire considérablement la pauvreté qui sévit suite à ces conflits avant ou après. Pour cela, il est urgent de sortir de la prédation et de l'égoïsme de ceux qui veulent toujours fausser les règles du jeu afin de restaurer une confiance nécessaire dans ce commerce qui est aussi nécessaire à l'humanité tout entière. En renforçant les programmes de traçabilité afin de bien identifier les ressources provenant des zones de conflit, du travail forcé ou du travail des enfants. Et aussi, il est important de définir des politiques publiques volontaristes faisant en sorte que l'exploitation des ressources naturelles profite tant aux populations dont les droits doivent être renforcés afin de parvenir à la transparence des transactions, mais aussi définir des nouvelles règles de répartition qui sont acceptables pour tous, équilibrées, pour que les populations, les États et les entreprises clientes qui s'approvisionnent aujourd'hui au détriment de ces populations et des États propriétaires puissent également transformer leurs pratiques en des pratiques vertueuses afin que l'économie qui est nécessaire aussi au développement humain soit équilibrée et soit aussi pratiquer dans des règles qui conviennent à tout un chacun et que le commerce soit inscrit dans la confiance et les intérêts convergents et non dans des intérêts divergents.
Voilà, c'était Antoinette Montaigne en Centrafrique, hein, qui est notamment membre de la commission Vérité et Réconciliation. On va écouter tout de suite, cette fois-ci au Gabon, une journaliste, c'est Raissa Sylvana Oyaseko, et elle est membre d'une initiative, enfin ça s'appelle l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives.
L'assainissement du domaine de l'extraction en Afrique doit avant tout faire la promotion du développement communautaire, ce qui implique d'exiger des compagnies minières qu'elles contribuent au développement des communautés locales par le biais d'investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Encourager la participation des communautés locales dans les consultations et consentements éclairés, les impliquer dans le processus décisionnel concernant l'exploitation minière et obtenir d'eux un consentement libre et éclairé avant le début de tout projet et mettre en place des mécanismes équitables de partage des revenus qui garantissent que les communautés locales bénéficient des ressources minières de leur région. Il s'agit là d'encourager les compagnies minières à recruter et à former des travailleurs locaux et à donner la priorité aux entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement. Tout cela doit se faire en s'assurant du respect des droits humains. Il faut alors garantir que les travailleurs du secteur minier jouissent des conditions de travail décentes et sûres. En continuant à travailler ensemble, les parties prenantes peuvent faire en sorte que le secteur minier contribue à un avenir meilleur.
Et voilà, c'était des recommandations de Raissa Sylvana Oyaseko, qui est membre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Gabon. Marie Desanges Lomo, vous avez entendu, elle a parlé un petit peu de la population justement dans ces questions-là. Alors que faire, vous, qu'est-ce que vous préconisez pour que ces ressources naturelles profitent vraiment aux populations locales?
Alors principalement, oui, Il a mentionné pas mal de choses que nous recommanderions aussi. Mais principalement, je sais que les entreprises qui sont obligées par le principe de diligence raisonnable à mettre en place des mécanismes, des stratégies pour le développement des populations qui vivent autour des sites qu'elles exploitent, ont également besoin d'un certain suivi du gouvernement et de la société civile parce qu'à un certain moment, en parlant avec les entreprises, ils vous présentent toutes les activités qu'ils sont en train de faire en concertation avec les communautés locales. Mais à la fin de compte, quand vous réalisez le changement dans la qualité même des vies, le changement en termes de développement de ces communautés, il n'y a pas d'impact. Mais pourtant, il y a des activités qu'ils prétendent faire ou qu'ils sont en train de faire. Alors, cela aussi demande à ce que les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine soient très minutieuses par rapport au suivi en termes de résultats sur ce point de développement de ces communautés, mais également que l'État aussi fasse sa part pour que la question ne soit pas seulement au niveau des activités ou des activités que font ces entreprises pour répondre à cette obligation des diligences par rapport aux communautés, mais que ce soit une question des résultats et qu'ils soient vraiment rigoureux par rapport à cette question-là.
Merci beaucoup Marie Desanges Lomo. On va écouter à présent une autre analyse de Raissa Sylvana Oyaseko qui voudrait apporter d'autres points sur ces questions de l'industrie minière.
il est important de renforcer la bonne gouvernance et la transparence, ce qui exige une révision des codes miniers en mettant en place des nouveaux codes clairs, complets et attrayants pour les investisseurs, tout en garantissant la protection des intérêts des communautés locales et de l'environnement. Aussi, une amélioration de la transparence des contrats doit s'imposer. Il s'agit là de publier les nouveaux contrats miniers et exiger une divulgation des bénéficiaires réels afin de lutter contre la corruption et les accords opaques. Il est question de renforcer les capacités des institutions gouvernementales chargées de la gestion du secteur minier, notamment en matière de suivi et de contrôle des activités minières. L'assainissement du domaine de l'extraction en Afrique doit avant tout faire la promotion du développement communautaire, ce qui implique d'exiger des compagnies minières qu'elles contribuent au développement des communautés locales par le biais d'investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures.
Voilà, c'était à nouveau Raissa Sylvana Oyasekou, qui est donc membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Gabon. Alors Marie Desanges Lumo, elle en a parlé, hein, Raissa. Donc la responsabilité des États dans l'exploitation minière liée à des conflits. Déjà, comment on fait pour gérer des sites miniers dont on n'a pas le contrôle?
C'est la grande question, en fait, Nathalie, parce qu'il y a aussi cette question-là de la présence de l'autorité de l'État dans les zones où se trouvent ces sites miniers. Et c'est là que je reviendrai encore sur la question du fait que l'État doit travailler là-dessus. C'est de sa responsabilité, en fait, non seulement d'imposer son autorité, mais également de trouver des stratégies pour contrôler le secteur. En effet, c'est très difficile de pouvoir le faire alors que l'autorité de l'État n'est pas effective dans ces zones-là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je pense qu'à un certain moment, s'il y a beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'intégration aussi des uns et des autres, c'est très possible de pouvoir contourner ce défi-là.
Merci beaucoup, Marie Desanges. On va terminer en écoutant une Guinéenne, c'est Djiwoso.
Je suis membre du conseil d'administration d'une ONG qui travaille sur la question des mines. J'ai l'impression que toute cette médiatisation qu'on a aujourd'hui autour de ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda n'a qu'un seul objectif, distraire les populations africaines. Et la République démocratique du Congo est indépendante depuis 63 ans. Et c'est maintenant qu'on découvre la supercherie de Apple, qu'on se rend compte que les enfants travaillent dans les mines, qu'on se rend compte qu'il y a le blanchiment des minerais liés à des conflits. Moi, je pense que ce problème se situe à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est le pillage du tiers-monde, du continent. Et on a découpé le continent, on a essayé de nous spolier nos richesses. Et au jour d'aujourd'hui, on continue à nous garder et à nous confiner aux simples producteurs de matières premières. Si on prend le cas du Congo, depuis son accession à l'indépendance et depuis que Lumumba a voulu parler d'indépendance économique, c'est un pays qui a subi assez de violence.
Voilà, et c'était donc Djiwoso, militante des droits humains en Guinée. Alors, pour terminer très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, Marie Desanges, alors que faire en trois mots pour que l'exploitation minière permette le développement économique au niveau local?
Principalement, il y a besoin, je vais le répéter encore, d'imposer le respect du principe de diligence raisonnable aux entreprises et que cela soit effectif. Il y a également besoin de conscientiser les derniers utilisateurs de ces minerais à se rassurer que ces minerais ne sont pas entachées des conflits ou de sang.
Et voilà, on arrive au terme de l'émission. Marie Desanges Loumeau, je suis désolée de vous couper. Je rappelle que vous êtes spécialiste en développement organisationnel. Merci beaucoup pour votre participation. Restez à l'écoute de VO Afrique pour la suite de nos programmes. À très bientôt et bon courage.